au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le but de l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de ces derniers chapitres magnifiques de l'évangile de Saint Jean, de ce qu'on appelle les discours de Jésus après la scène, le but de l'évangile donc est de préparer les apôtres à vivre rien moins que l'effusion plénière du Saint-Esprit qui advient, nous le savons, au moment de la Pentecôte. Il s'agit d'apprendre à ces apôtres, alors qu'il n'est pas encore mort, c'est le jeudi saint que ce discours est prononcé, il s'agit d'apprendre à ces apôtres à vivre sans lui, Jésus, à l'école d'un autre que lui, qui est l'Esprit Paraclet. Vous savez que Saint Jean qualifie Jésus lui-même de premier Paraclet et le Saint-Esprit de second Paraclet. C'est tout à fait d'actualité dans le contexte liturgique que nous vivons depuis quelques semaines, ou que nous nous apprêtons à vivre, parce que dans quelques semaines, nous vivrons ce départ de Jésus au ciel, nous aurons à faire le deuil de la présence liturgique au moins de Jésus, et nous aurons à vivre ensuite de cette effusion de l'Esprit-Saint au moment de la solennité de la Pentecôte. On a parfois dans l'Église été tenté d'articuler trois âges successifs qui correspondent aux trois personnes de la Sainte Trinité. Il y aurait, c'est par exemple la théologie fausse de Joachim de Flore, il y aurait un âge du Père auquel succéderait un âge du Fils et ensuite un âge de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y aurait qu'un seul Dieu, une seule personne qui se métamorphoserait, si j'ose dire, qui emprunterait trois masques successifs. Ce même Dieu, absolument unique, emprunterait le masque du Père, aurait emprunté jusqu'à l'incarnation le masque du Père. À partir du moment où il s'incarne dans le sein de Marie, il emprunte le masque du Fils. Et à partir du moment où le Fils monte au ciel, eh bien, il emprunte un autre masque, qui est celui de cette petite colombe charmante ou des langues de feu, qui en fait constitue le Saint-Esprit. Vous vous en doutez, cette théologie est erronée. Nous avons en réalité trois personnes qui agissent toujours de pair. C'est-à-dire que lorsque Jésus s'est incarné, bien sûr, il s'est incarné grâce au dessein éternel de son Père, qui voyait toutes choses et voulait toutes choses. Il s'est incarné sous l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu prendre sous son ombre, au bon bré, dit-on en théologie, la Vierge Marie, et incarner dans son sein rien moins que le Fils de Dieu. Il y a donc une parfaite simultanéité entre l'action des trois personnes divines. Néanmoins, à telle personne est confiée telle mission, à telle autre personne est confiée telle autre mission. En fait de mission, les trois personnes ne se confondent pas. Je suis désolé de commencer un peu raide par une leçon de théologie dogmatique sur la Trinité, mes chers amis, surtout pour vous qui sortez des bois et qui peut-être cette nuit n'avez pas fermé l'œil. Néanmoins, je vais essayer de redescendre sur terre à partir de cette vérité fondamentale. Nous avons à la fois une parfaite co-action des trois personnes et en même temps, à certaines périodes, c'est vrai, une des trois personnes se manifeste plus que les deux autres. C'est exactement ce qui se passe avec la Pentecôte, c'est exactement ce qu'annonce le Seigneur Jésus. Et mes chers amis, c'est exactement le biais par lequel nous autres, qui sommes nés après la Pentecôte, qui n'avons pas connu le Seigneur Jésus de son vivant, à moins que certains d'entre vous aient eu ce privilège, mais là ça m'intéresserait de les interroger, parce que ça voudrait dire que ça fait 2000 ans qu'ils vivent, bref, quelques petites choses à régler. Mais nous n'avons connu que le règne du Saint-Esprit, ce qui ne veut pas dire que le Fils n'est pas là, que le Père n'est pas là. Quel est le but? Quelle est la mission propre du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, nous dit Jésus, ne dira rien de lui-même, il ne fera que répéter ce que je vous ai dit, moi Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit communique à l'humanité, à chaque génération, exactement ce qu'a dit, exactement ce qu'a fait et exactement ce qu'a mérité Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est cette personne de la Trinité qui fait rentrer Jésus-Christ en nous, qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a enseigné pendant les 30 et quelques années qu'il a passées sur les routes de Galilée. Le Saint-Esprit est là pour trois choses, nous dit Jésus, pour confondre le monde en fait de péché, en fait de justice, et pour confondre le monde en fait de, j'oublie le troisième fait du coup, de justice, de péché, et, n'avez-vous pas le texte sous les yeux, de jugement. Que signifie cette expression mystérieuse? Le Saint-Esprit vient nous rendre Jésus présent, et en même temps, Il vient confondre le monde en fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement. On se croirait devant le sphinx qui au passant qui arrive et qui veut entrer dans la cité, qui doit pouvoir répondre à cette question. Elle est redoutable, cette énigme de Jésus. D'ailleurs, ses apôtres n'y comprennent rien, et je pense que vous non plus, lorsque vous avez entendu ce texte, n'avez compris goutte. Alors je vais essayer de vous rendre compte de la vérité de l'Évangile et de vous montrer cette mission du Saint-Esprit. Je vais essayer de ne pas être trop long. Voyez, lorsqu'on nous dit que le Saint-Esprit va confondre le monde en fait de péché, de jugement et de justice, on veut dire qu'en réalité, il a deux versants de son action. Un versant négatif, un versant positif. Toujours en relation avec le Seigneur Jésus. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est ce qui permettait au Seigneur Jésus de venir en nous, de vivre en nous, de nous parler à nous qui sommes nés bien après le départ de Jésus pour le ciel. En fait de péché et en fait de jugement, ça c'est le versant négatif de l'action du Saint-Esprit. Pour que Jésus puisse venir en nous grâce au Saint-Esprit, encore faut-il que nous renoncions, que nous connaissions notre péché et que nous renoncions à notre suffisance. Voilà ce en quoi consiste la conviction du monde en fait de péché et en fait de jugement. Vous voyez, il y a en nous une sorte de bonne conscience native, et nous voyons cette bonne conscience éclater dans les médias, nous voyons dans la conduite de nos contemporains, une certitude qu'ils sont les meilleurs esprits du monde, parce qu'ils sont nés dans une démocratie, comprenez-vous, qu'ils ont un système juridique incroyable, qu'ils ont un système social qui donne sa place à tous. Tout cela donne la conviction, singulièrement aux petits Français aujourd'hui, qu'il est quelqu'un de bien, qu'il n'a besoin de personne, qu'il n'a surtout pas besoin d'un sauveur. Le Saint-Esprit est là pour mettre en lumière, nous introduire à la vérité tout entière, c'est-à-dire jeter un faisceau lumineux sur la bouillasse qui est en nous. Nous convaincre de péché, nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Car comme le dit saint Jean, celui qui prétend n'avoir pas de péché est un menteur. Voilà la première chose que fait le Saint-Esprit. Mais de quoi s'agit-il sinon de répéter ce que disait déjà Jésus? Pendant les trois ans de sa vie publique, qu'a fait Jésus? Certes, il a guéri, certes, il a accompli toutes sortes de miracles, certes, il a remis le péché, mais il a d'abord commencé par dénoncer le péché. Sépulcre blanchi, hypocrite. Il se lamente sur Jérusalem. Pourquoi Jésus se lamente-t-il? Et pourquoi Jésus dénonce-t-il? Parce qu'il déteste, certainement pas. Parce qu'il veut mettre en évidence le fait que ses contemporains pharisiens, qui se prenaient pour des types bien, n'étaient que des pécheurs comme les autres. Et qu'ils avaient besoin du salut que lui, Jésus, le vrai Messie, venait apporter. Voyez, le Saint-Esprit ne fait rien d'autre que nous répéter ce que Jésus a fait pendant 3 ans sur les routes de la Palestine. Il le fait au fond de notre cœur. Ne vous étonnez donc pas qu'aucune voix ne sorte du ciel pour vous enseigner « voici ton péché ». Non, le Saint-Esprit agit de l'intérieur. Il vient répéter ce que fait Jésus de l'intérieur. Voilà donc la première mission du Saint-Esprit. Vous comprenez bien que Jésus ne naîtra pas en nous s'il n'y a pas d'abord au fond de notre âme la conviction profonde que nous ne sommes pas des types bien, et des femmes bien non plus. Voyez que nous avons besoin d'un sauveur. En fait, de jugement, je passe dessus parce que c'est quasiment la même chose. Il nous répète que nous aurions mérité la mort, que notre péché nous aurait mérité la mort. C'est ce que Jésus disait à ses apôtres. On fait toujours de Jésus une sorte de chevelu, un peu anarchiste, un peu doucereux peut-être, un peu gentillet avec les joues roses, les yeux bleus de ses statues chevaliennes, pas toujours du meilleur goût. Mais non, Jésus, vous le savez, a un enseignement qui est parfois très vigoureux. Et Jésus dénonce le péché, Jésus nous explique que nous avions mérité la mort, si lui, Jésus, ne venait pas nous sauver. Que donc nous n'avons qu'une seule solution, nous attacher fermement au Seigneur Jésus. Ça c'est le versant négatif du Saint-Esprit, voilà ce que le Saint-Esprit vient opérer en nous. Et il ne fait là que répéter ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Désolé de vous répéter cela, mais au moins ça rentrera dans vos cœurs et surtout dans vos intelligences. En fait de justice, j'en viens là au versant positif du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, en fait de justice. En fait, le Saint-Esprit est là pour nous montrer en quoi consiste la vraie justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Vous savez que les justes de l'Ancienne Alliance, ce sont les personnes qui ont obtenu le salut. Ils se tenaient juste en présence de Dieu. Saint Joseph est le modèle des justes, par exemple. Abraham est le modèle des justes. Il crut en Dieu et ce lui fut compté pour justice. voyez, la justice, ce n'est pas simplement le fait d'être en règle avec les obligations légales de l'État dans lequel nous vivons. La justice, c'est le fait d'être en règle avec Dieu, c'est-à-dire d'être en mesure d'entrer au ciel. Voilà ce qu'il y a de plus fondamental. Eh bien, le Saint-Esprit nous apprend ce qu'est la justice, comment être vraiment juste. C'est-à-dire qu'il nous permet non pas seulement d'avoir accès à l'Évangile, à la loi nouvelle que nous dicte Jésus, ça, il suffit d'ouvrir l'Évangile pour cela. Lui, le Saint-Esprit, vient nous convaincre de la véracité de la loi nouvelle. Il vient nous expliquer dans le détail comment mettre en œuvre à chaque instant cette loi de l'Évangile qui nous permet d'être vraiment juste, d'être justifié et de pouvoir être en droit d'entrer au ciel un jour. Voyez ce versant magnifique. Et quelle est cette justice à laquelle nous introduit le Saint-Esprit? Quelle est cette justice que nous apprend le Saint-Esprit? C'est pas la justice des pharisiens. Jésus nous le dit. Le Saint-Esprit ne fait que répéter ce qu'a dit Jésus. Et Jésus nous l'a dit sans cesse. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Le Saint-Esprit nous enseigne qu'en réalité, la justice qu'il faut réussir à acquérir par la grâce de Dieu, c'est une logique de surabondance. C'est en fait la charité. C'est Jésus qui incarne cet exemple de justice. Jésus est venu payer la dette qui était contractée à l'égard de Dieu par nos pauvres parents et toute la race humaine depuis des millénaires. Jésus est venu la payer, et de quelle manière? Il est venu la payer en gentleman, j'allais dire. Il est venu régaler la totalité de l'humanité en s'offrant sur la croix, en offrant une nuit de supplice, en ne condamnant personne, en ne dénonçant personne, en prenant sur lui toutes ces horreurs que constituent nos péchés, et en s'offrant d'une manière absolument surabondante. Voilà ce que nous apprend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit « Tu es pécheur, tu aurais mérité la mort, mais grâce à Jésus-Christ, tu peux enfin devenir juste. Si tu veux être juste, fais comme Jésus-Christ, sois surabondant. » Cesse de regarder les petits règlements de ton église. Cesse de croire qu'à peu de frais, tu pourras faire ton salut. N'entre pas dans ces petits calculs de boutiquier. Tu n'es pas un boutiquier, tu es un catholique. Et ce que tu dois faire, c'est la même chose que ton Seigneur Jésus-Christ. Tu ne comptes pas. Tu es surabondant. Et moi, Saint-Esprit, je te donnerai cette force qui te permettra, exactement de la même manière que Jésus l'a fait, d'être totalement surabondant. Dans ton devoir d'État, dans ta famille, tu es père, tu es mère, tu es enfant, tu es frère aîné, tu es sœur cadette, tu es prêtre, tu es religieux, peu importe ton état de vie, sois surabondant. Ne compte pas, écoute ce que Jésus t'a dit, je vais te permettre de le vivre profondément. Voilà le travail du Saint-Esprit. Vous me direz, monsieur l'abbé, vous êtes gentil, vous avez commencé par des considérations très élevées, très spéculatives sur les trois personnes divines. Nous nous attendions soit à nous endormir de suite, soit eh bien, à être nourris par la suite et vraiment à apprendre des choses tout à fait nouvelles. Mais mes chers amis, si le Saint-Esprit ne fait que répéter, le Saint-Esprit lui-même, deuxième, troisième personne de la Trinité, ne fait que répéter ce que vous dit Jésus, ce n'est pas l'abbé Baumann qui va vous inventer quoi que ce soit. Vous voyez, ce sont des choses que vous savez pertinemment, mais qu'il faut sans cesse reméditer. Faites comme la Vierge Marie. Elle gardait ces choses dans son cœur, elle les retournait. Et si vous le voulez bien, pour cette semaine, méditez. N'allez pas seulement sur quelques sites internet pour voir comment évolue la Manif pour tous, je ne sais quoi, c'est déjà bien. Mais plus que cela encore, je crois que c'est plus capital. Retournez dans votre cœur ce que Jésus vous dit aujourd'hui sur l'Esprit Saint qui est venu convaincre le monde en fait de péché, en fait de jugement et en fait de justice. Alors, vous arriverez à la Pentecôte et vous saurez supplier le Saint-Esprit de donner exactement ce qui convient pour pouvoir aller droit au ciel dans l'état qui est le vôtre aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.